Bienvenue à vous ici à Nouvelle-Vie. Bienvenue en ligne, tous nos amis partout, à travers le Québec, à travers la francophonie. Toi, derrière ton écran, Dieu a une parole pour toi. Aujourd'hui, nous allons apporter la deuxième partie du message. Il est le Dieu de l'impossible. Et je crois que ce message touche quelque chose dans le cœur de plusieurs. Le premier message a eu, en quelques jours, plus de 17 000 visionnements des gens. Ça semble toucher un point dans le cœur de nombreuses personnes d'entre nous et partout à travers. On a reçu plein de courriels de gens un peu partout. Le Dieu, j'ai besoin de cette vision renouvelée qu'il est le Dieu de l'impossible. Au début de l'année, dans le temps de début d'année de jeûne et de prière, Dieu m'a donné, a mis sur mon cœur un thème pour l'année 2023, qui est l'année du 30e anniversaire de l'Église Nouvelle Vie. Et notre thème depuis le début de l'année, c'est hashtag MAV, meilleure année à vie. Alors, voulez-vous juste le dire avec moi, juste meilleure année à vie, 1, 2, 3, meilleure. Meilleure année à vie, c'est devenu une espèce de mouvement, nous ici, dans plusieurs des séries, nous ramenons ce thème. Et à Nouvelle Vie cette année, dans tellement de dimensions de croissance et de multiplication, c'est la meilleure année à vie. Et en même temps, c'est une espèce de mouvement. Il y a un président d'entreprise qui m'a dit, c'est devenu mon thème. J'ai mis ça dans la salle de rencontre avec toute mon équipe. MAV, hashtag MAV, meilleure année à vie. Il y a une enseignante au secondaire qui en a fait le thème de son année avec ses étudiants, je pense secondaire 4, meilleure année à vie. Un gérant d'une cinquantaine de représentants, meilleure année à vie, des pasteurs, des églises. Il y a un pasteur qui m'a envoyé une photo de la bannière qu'il a mis au-dessus de son sanctuaire. MAV 2023, meilleure année à vie. Puis une des choses qui m'a touché, un aumônier qui utilise nos prédications du dimanche matin avec des détenus. Et lui a dit, c'est notre année MAV. Je dis aux gars, c'est notre meilleure année. C'est l'année MAV dans ta vie. Et tout ce mouvement-là n'est pas un seul droit d'auteur pour moi. Rien du tout, pas une scène jusqu'à maintenant. Mais c'est au ciel, je pense, que tout ça va s'égaliser. Mais je sais bien que pour plusieurs personnes, pour des milliers, même d'entendre toute la notion de MAV 2023, meilleure année à vie, est douloureux pour vous. Parce que vous dites, Pasteur Claude, moi, le 2023, ce n'est pas du tout ma meilleure année à vie. Je vis des choses difficiles en 2023. Tu as traversé une séparation, tu as traversé un divorce en 2023. Tu as quelque chose qui prend place dans ta vie, dans ton cœur. Il y a eu un diagnostic de maladie. Il y a eu un échec, il y a eu une déception, il y a eu une blessure. Il y a quelque chose que tu dis, à chaque fois que vous dites, MAV 2023, moi, ça vient me chercher parce que moi, c'est une année de combat, une année difficile, une année où pour moi, où des gens prennent moi, vivent une crise majeure. Et si je peux vous ouvrir mon cœur un instant, vous dire ceci, c'est une année pour nous, paradoxale. Pour moi, c'est une année paradoxale. Elles le sont toutes, mais celle-ci en particulier, parce que vraiment, Dieu a déposé ça sur mon cœur pour le début de l'année, ma meilleure année à vie. Dans tellement de façons, Nouvelle Vie, nous vivons une meilleure année à vie dans toutes sortes de choses mesurables. Mais en même temps, jusqu'à ces cinq premiers mois de l'année 2023, c'est aussi une année de combat, une année d'attaque, une année de choses qui arrivent qui étaient complètement imprévisibles, une année où il y a des choses qui semblent maintenant impossibles, une année avec toute cette dualité. J'aimerais vous dire aujourd'hui, nous pouvons toujours et seulement croire, mais quelle que soit l'année, quelle que soit la situation, nous pouvons toujours et seulement croire qu'une année peut être la meilleure année à vie parce que nous servons le Dieu de l'impossible. Parce que nous servons le Dieu de l'impossible. Nous pouvons toujours croire parce que le Dieu de l'impossible nous permet de transcender toutes nos limitations humaines. Lorsque Jésus dit encore, Matthieu 19, 26, Jésus nous regarde encore et il nous dit encore aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Alors, dans chacune de nos vies, il y a ces lignes, il y a ces aspects, ces combats de nos vies où mes limitations humaines sont atteintes. Pour moi, ça, c'est trop difficile. Pour moi, ça, c'est devenu impossible. À toi, cela est impossible, mais avec Dieu, tout est possible. La beauté et les possibilités rédemptrices illimitées de la foi chrétienne, c'est que quel que soit le défi et quelle que soit la saison de nos vies et toutes les dimensions qui nous semblent maintenant inaccessible, irréparable ou carrément impossible, nous avons en Jésus un appel, nous avons une assurance que nous servons le Dieu de l'impossible. Ce qui est inaccessible pour moi, ce qui est impossible dans toute ma dimension humaine devient possible dans ma relation avec lui. Quelqu'un devrait dire « Amen » et quelqu'un devrait le célébrer avec moi. C'est vraiment, c'est à l'endroit même, au moment même, à l'endroit même dans ta vie où tu es au bout de tes limites et capacités, tu peux rencontrer, tu peux dépendre et tu peux rencontrer Dieu et lui remettre toutes tes impossibilités. Et ça, c'est vrai dans toutes les saisons de ta vie, que ce soit une saison d'épreuve. Dans ta saison d'épreuve, tu peux lui remettre au Dieu de l'impossible. Dans ta saison dans tes échecs, dans les échecs que j'ai pu traverser, nous vivons tous des échecs. Il y a un moment, il y a un échec qui a pris place. Et dans cette saison-là d'échec, il est le Dieu de l'impossible pour toi. Dans les saisons où j'ai besoin, où humainement, aux hommes, à moi, c'est impossible. C'est devenu comme impossible de m'élever au-dessus de cette situation, au-dessus de cette blessure, au-dessus de ce poids, au-dessus de cette épreuve que je vis en ce moment. Aux hommes, cela est impossible, mais le Dieu de l'impossible vient nous chercher et nous élève au-dessus avec lui. Et même dans tes exploits, il y a des exploits que Dieu a préparés pour toi et par toi qui sont inatteignables par tes forces humaines, mais nous servons le Dieu de l'impossible. J'aimerais que vous puissiez le célébrer avec moi ce matin. En ligne, ce message est pour toi. Jésus, c'est le point de transcendance entre mes capacités humaines où elles peuvent devenir des conquêtes divines. C'est pour ça qu'il y a toutes sortes de descriptions, du Dieu de l'impossible. Si vous avez manqué le message, le premier message, allez chercher le message parce que les deux, nous soulignons, nous développons les mêmes principes, mais avec du contenu, avec toutes sortes de révélations différentes. Dans les deux messages se complètent. Vous avez besoin des deux messages parce que nous avons toutes ces présentations, nous avons toutes ces proclamations du Dieu de l'impossible, décrits, descriptions, comme dans Éphésiens 3, 20, 21. Où Paul le décrit comme « à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà ». Voulez-vous dire à voix haute avec moi « infiniment au-delà » ?« De tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Nous devons ranimer, renouveler, et s'il le faut, par l'Esprit de Dieu pour toi, pour moi, ressusciter cette réalité spirituelle à nos cœurs, à celui qui peut faire infiniment au-delà par la puissance qui agit en nous. Question de Dieu pour toi. Est-ce que tu essaies de traverser, de bâtir, d'accomplir ta vie par tes forces? Est-ce qu'à chaque jour, tu t'arrêtes? Si tu savais la différence que ça ferait dans ta vie, si tu t'arrêtais avec tous les talents que tu as, les connaissances, les capacités, l'énergie, l'intelligence, l'éducation, si tu t'arrêtais à chaque jour pour dire, « Seigneur, aujourd'hui, j'ai besoin de ta puissance qui agit en moi. » Il n'est pas seulement le Dieu tout-puissant, créateur des astres et du ciel. Il est le Dieu qui est capable de calmer mon cœur, de diriger mon cœur, de donner mes forces, de venir agir à l'intérieur de moi. Nous devons rehausser et refuser de réduire nos attentes et nos perspectives. Il est celui qui veut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ne limite pas, ne réduis pas le Dieu infiniment au-delà à tes demandes et pensées humaines. Et si nos demandes et nos pensées à nous sont si limitées, sont si imparfaites, mes plans, mes prévisions, mes échéanciers, mais comment ça devrait arriver, quand ça devrait arriver, mes chronologies et mes échéanciers, ne limite pas Dieu. Le Dieu de l'impossible veut faire et va faire. Nous avons très souvent la tendance à essayer de dicter au Dieu infini de l'impossible. Comment absolument de cette façon-là et dans ce temps-là, il devrait agir? Mais Paul dit sous l'inspiration de l'Esprit, celui qui peut faire infiniment au-delà. Tu pries pour sa volonté, tu pries selon ton cœur, mais il veut. Ne le limite pas à ce que tu as vu, à ce que tu connais, à ce que tu avais prévu. Laisse-le être le Dieu sur ta vie de l'impossible. Infiniment au-delà de tout ce que tu as demandé et prié. Le Dieu de l'impossible est à la fois le Tout-Puissant. Il est infiniment, dans le surnaturel, infiniment au-delà, Tout-Puissant. Mais il est aussi le Tendre Père. infiniment. Il est infiniment dans son naturel, mais il est infiniment dans sa sagesse, infiniment dans ses soins. Il est un Père qui sait mieux que nous ce que nous avons besoin. Et il est le Dieu de l'impossible. Nous devons recalibrer notre vision du rôle et des ressources que Dieu a donné et désire manifester dans son Église et par son Église. Son Église, à lui soit la gloire, au siècle des siècles, dans son Église en Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit « Amen ». Il n'y a aucune place dans la vision de Dieu pour son Église, pour un lieu ou pour un rassemblement de jugement ou de petitesse ou de limitation ou d'égo humain ou de routine ou de rituel où on revient et on repart. Où que ce soit où son peuple est rassemblé comme nous sommes ce matin, aujourd'hui, Dieu dit, ça c'est l'endroit où je veux manifester ma gloire. C'est l'endroit où je veux me glorifier. Et il n'y a aucun siècle, il n'y a aucune épreuve, il n'y a aucune pandémie, il n'y a rien ni personne qui va empêcher le Seigneur Jésus de se glorifier dans son Église d'ouvrier. Dire Amen. Pensez-y une seconde. Arrêtez-vous un instant parce qu'on a traversé ça comme en temps, on a traversé ça à la course sans prendre notre souffle. Mais le mois de mars, lorsqu'au mois de mars 2020, l'équipe pastorale de Nouvelle Vie, on est assis ensemble et à préparer toute l'année, on est à quelques jours du dimanche, le mardi ou le mercredi, et que le couperet tombe et que le gouvernement annonce qu'il va y avoir confinement maintenant, que les églises sont fermées. Et on n'avait aucune idée combien de temps, on n'avait jamais mis une réunion en ligne Nouvelle Vie à ce moment-là, on doit le faire, on bâtit l'avion en vol dans les jours qui suivent, on ne sait pas c'est pour combien de temps, personne n'aurait pu imaginer ici au Québec presque 18 mois de confinement, les portes de l'église sont fermées, moi j'ai fait des centaines et des centaines de journées, moi et quelques personnes à l'église, on n'avait même pas le droit, on venait la semaine avec une permission spéciale, le stationnement vide, la salle vide, une caméra sur nous, avec toutes les qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer, ce que l'église, et j'ai entendu les centaines de pasteurs, j'en rencontre des pasteurs à chaque mois, dire « Est-ce que l'Église va survivre? Est-ce que l'Église chrétienne va survivre à tout ça? » Et en même temps, prenait place sur les médias sociaux partout. Le peuple de Dieu se divisait sur des enjeux, se divisait, les frères sont devenus ennemis. Et il y avait tout ça. Qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'on va pouvoir revenir? J'aimerais vous dire que le Seigneur a dit, je vais bâtir cette église, je vais me glorifier dans mon église de siècle en siècle, de génération en génération. Et l'église n'a pas seulement survécu, elle n'a pas seulement passé à travers, elle a grandi, elle s'est multipliée, elle a vu la gloire de Dieu se manifester. Des trois, tout ce qui a pris place pendant la pandémie, de ces 10 000 personnes qui nous suivaient sur YouTube, à plus de 170 000 maintenant à nos sites. Pendant de la pandémie à aujourd'hui, Nouvelle Vie, Châteauguay, Nouvelle Vie, Drummondville, la multiplication, deuxième réunion, troisième réunion, l'avancement de l'œuvre de Dieu, nombre record de personnes servies par l'organisme Action Nouvelle Vie. Dieu désire manifester sa gloire dans son Église parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu de l'impossible. J'ai reçu une documentation assez intéressante cette semaine. Nous avons des gens priés pour eux, je ne les nomme pas, mais il y a des personnes dans notre Église qui travaillent, qui œuvrent au gouvernement, qui sont dans les hautes sphères à Ottawa, au Parlement d'Ottawa, avec les hautes sphères politiques. Et j'ai reçu un document qui est une étude de « Shifting Landscape of Faith in Canada », le changement profond du portrait ou paysage spirituel au Canada. C'est fait, c'est un document très, très, très étoffé qui a étudié tout ce qui prend place au Canada de très, très, très récent jusqu'à novembre 2022. Et j'ai cette citation, c'est très, très étoffé, mais juste une citation qui dit ceci. « L'une des conclusions de ce rapport, dont les sondages ont été réalisés par Angus Reid, montre une forte régression de taux de fréquentation des lieux de culte de religion chrétienne, toutes dénominations confondues, au cours des 5 dernières années. Et celle qui m'écrit, qui travaille au gouvernement, dit ceci, « Vous constaterez ainsi que Nouvelle Vie est à contre-courant de ces résultats et au grand étonnement de tous. » Je profite surtout de l'occasion pour faire part de l'invitation de, elle me nomme, un député qui est en charge d'un comité interreligieux canadien et d'une, je ne le nommerai pas ce matin, mais je profite surtout de l'occasion pour faire part de l'invitation de, qui tient à vous rencontrer personnellement. Il est le président du Petit Déjeuner national de prière. Événement très prisé sur la colline, il rassemble chaque année des centaines de parlementaires, des membres de la société civile, parmi lesquels des gens d'affaires, des pasteurs de toutes les dénominations confondues, ainsi que des membres des divers milieux ecclésiastiques, médiatiques, religieux, religieux et politique. Le comité d'honneur se compose du premier ministre Justin Trudeau, du gouverneur général, du leader de l'opposition officielle, et le député veut vous rencontrer parce que les multiples implications de Nouvelle Vie, qu'il s'agisse des missions et interventions locales, ont attiré l'attention des compétences fédérales, et nous croyons qu'il serait bon que la nation vous entende. Accepteriez-vous de le rencontrer? Il est prêt à faire le déplacement pour assister au culte dimanche matin. Il souhaite vivement faire votre rencontre. J'aimerais vous dire que le Seigneur va glorifier son Église et que nous allons... Voulez-vous applaudir ce que Dieu va faire? Allez, allez! Il faut élever un peu le standard de ce qu'on pense que l'Église va faire. Alléluia! Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu de l'impossible. Et nous devons revenir à la révélation et aussi au réalisme de l'enseignement de la parole de Dieu sur le Dieu de l'impossible. Dans le premier message, on a vu ensemble plusieurs passages bibliques où il y a des promesses du Dieu de l'impossible, mais qu'elles doivent être prises dans le contexte dans lequel elles ont été dites. On a regardé la semaine dernière comment nous devons revenir à la révélation et aussi au réalisme de l'enseignement de la parole de Dieu. On a vu la semaine dernière, comme cette semaine, ce texte magnifique de « Il est le Dieu infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons ». Vous connaissez le contexte de cette promesse, de cette description du Dieu de l'impossible. Paul est en prison. Paul est prisonnier. Il n'a pas dit « J'ai fait disparaître les barreaux. Il est le Dieu de l'impossible ». Non, il y a cette réalité. Il est en prison, mais de sa prison, il déclare « Il n'y a aucune prison qui va me garder. Dieu est le Dieu de l'impossible ». On a vu la semaine dernière ce texte magnifique « Je peux tout par celui qui me fortifie ». J'entends ce texte-là être prêché de toutes les façons possibles pour dire aux gens « Rêve ton rêve, ce que toi tu as dans ton cœur, c'est ça. Tu peux être ce que tu veux, tu peux être ce que tu veux. » Regardez le contexte de « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Le verset précédent, juste avant, l'apôtre Paul, qui est en prison, écrit aux Philippiens, et il dit « J'ai dû apprendre, j'ai traversé des saisons d'abondance, j'ai traversé des saisons de détresse et de pauvreté et de disette, et Dieu m'a appris. » Ça, c'est une prière que personne ne prie en 2023. « Dieu m'a appris à être dans le contentement, quelle que soit ma situation, parce que je peux tout par celui qui me fortifie. » Les 8 personnes qui ont dit « Amen », vous êtes les seuls. Contentement dans ma situation n'est pas très, très populaire à notre époque. Mais on va regarder encore aujourd'hui, parce que c'est tellement important. Plusieurs magnifiques promesses de Dieu qui, prises hors de leur contexte, deviennent des prétextes, des clichés, des slogans, où le déni spirituel, l'évasion, escapism, l'évasion du réalisme, et viennent polluer et même fausser la vérité des promesses du Dieu de l'impossible. Alors, on regarde une promesse du Dieu de l'impossible aujourd'hui qu'on a débuté la semaine dernière parce qu'on a étudié depuis ces deux messages de Jérémie 29 à Jérémie 32. Et vous avez au cœur de ça deux promesses extraordinaires que les chrétiens citent et qui sont vraies et magnifiques. Jérémie 32, 17, « Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et ton bras étendu. Rien n'est trop difficile pour toi. » Combien croient que rien n'est trop difficile pour lui? Et dans la prochaine promesse, nous commence à ouvrir ces trois principes, ces trois proclamations, principes et pratiques, prières puissantes, quand nous traversons des vallées d'impossibilité. Et le premier principe est celui-ci. Quel que soit ce qui a été ébranlé, échappé ou éteint dans ta vie, tu dois te rappeler et te rapprocher parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Quel que soit ce qui a été échappé, ébranlé, des choses qui ont été ébranlées dans ta vie, des choses qui ont été échappées, des choses qui semblent s'être éteintes dans ta vie, tu dois te rappeler et te rapprocher que celui qui dit « rien n'est trop difficile pour moi » est aussi celui, Jérémie 29, 11 à 13, qui dit ceci, « Car je connais les plans que j'ai formés pour toi, des plans de paix et non de malheur, afin de donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous serez libérés. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Vous connaissez le contexte de ses promesses. Rien n'est trop difficile pour lui. Je connais les plans que j'ai formés sur toi. Le peuple est à ce moment-là en captivité. Pendant des générations, ils ont résisté à Dieu, fermé leur cœur à Dieu, se sont endurcis à Dieu, se sont rebellés contre Dieu, ont ouvert eux-mêmes, littéralement, la porte à l'ennemi, comme on peut le faire nous-mêmes. Et l'ennemi, après des années d'avertissement et de refus de marcher avec Dieu, d'obéir à son cœur, l'ennemi est entré, l'ennemi les a dévastés, les Babyloniens sont venus, ont tout pillé, ont tout pris, et sont partis, les ont amenés à un millier de kilomètres loin d'eux. Tout a été échappé, tout est éteint. Tout semble être ébranlé. On est en 597 avant Jésus-Christ. Ils ont ouvert la porte et l'ennemi est venu piller. C'est leur réalité. Ils sont en Babylone. Tout a été échappé. En termes modernes, ils vivent des deuils, ils vivent des tragédies, il y a des larmes, il y a des incompréhensions, il y a une peur, il y a un blackout total sur toute possibilité pour l'avenir. Et paradoxalement, en même temps, et c'est la même chose aujourd'hui, chapitre 29, vous avez le prophète de Dieu qui dit, même si ça c'est votre réalité, que nous ne nions pas, je connais les plans, Dieu a encore des plans pour toi, Dieu a encore des plans pour toi. Mais le chapitre 28, Jérémie doit en même temps confronter, corriger et confronter des faux prophètes. Des faux prophètes qui essaient de prétendre, de vendre la salade d'une foi en Dieu qui nie toute cette réalité, qui nie cette réalité encore aujourd'hui, que si tu es croyant, tu vas vivre seulement dans l'abondance, que tu vas vivre seulement dans... Et s'il y a quelque chose qui arrive dans ta vie, ça doit être parce que tu n'as pas assez de foi, ou ça doit être parce que tu as péché, ou ça doit être parce que, ou ça doit être parce que... Et chapitre 28, vous le lirez à la maison, je vous en tire un texte. Jérémie adresse directement un des faux prophètes, Anania, et lui dit, « Écoute, Anania, l'Éternel ne t'a pas envoyé et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. » Et c'est ce que l'Évangile d'hyper-prospérité produit. Un évangile de clichés et de fausse prospérité qui produit une certaine exaltation. Les gens sont... C'est exaltant. Un engouement, un enthousiasme à court terme, mais un éloignement de la réalité de nos besoins aussi de prendre responsabilité pour nos vies, de prendre responsabilité devant Dieu. Un endurcissement aussi, c'est un des aspects les plus laids de l'évangile d'hyper-prospérité. Et créer, parfois dans certains cercles, il n'y a pas de gens plus méchants, plus durs et indifférents aux besoins de la souffrance des gens que des chrétiens qui disent « Moi, je suis un enfant de Dieu, moi, je suis un enfant du roi, moi, je vis dans les hautes sphères tout le temps. » Non, le peuple de Dieu est le peuple avec le cœur de Jésus qui a compassion pour ceux qui souffrent. Quelqu'un devrait dire oui. Mais ça produit un endurcissement et ultimement un effondrement de la foi dans les vraies promesses de Dieu, des gens qui sont désillusionnés. Écoute-moi en ligne, écoute-moi ici à Nouvelle Vie. Nous vivons sur une planète brisée, une planète qui gémit, nous dit la parole de Dieu, avec un environnement brisé, avec une société brisée, de génération en génération, des familles brisées, une moralité brisée, les principes de Dieu ignorés, tout ce que Dieu a préparé et qui est ignoré, avec toutes sortes d'enseignements anti-Dieu qui sont semés dans le cœur des enfants, même au préscolaire, dans un monde qui est brisé, il va y avoir des brisements, il va y avoir des souffrances, mais il va y avoir des sentiments de « j'ai tout perdu, qu'est-ce qui m'est arrivé? » Et au cœur de tout ça, la voix cristalline de Dieu se fait entendre « Je connais les plans que j'ai encore pour toi, des plans de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Mais il faut te le rappeler et il faut te rapprocher. Je me laisserai trouver par vous. Vous me prierez, vous m'invoquerez et je vous libérerai. Vous me chercherez de tous vos cœurs et je me laisserai trouver par vous, dit le Seigneur. Dans ces saisons-là où il y a une sorte, une gravitation qui essaie de... Dans les moments où tout tourbillonne, il y a tellement en nous qui veut juste courir loin de Dieu. Quand tu souffres, cours vers lui. Approche-toi de lui. Cherche-le. Il veut se laisser trouver par toi et te dévoiler les plans qu'il a pour toi. Quel que soit ce qui a été ébranlé, échappé ou éteint dans ta vie, tu dois te rappeler et te rapprocher parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Deuxième principe, quel que soit ce que tu entends, tu dois rechercher, recevoir et rester dans sa parole. La parole de l'Éternel, la phrase thème de cette section qu'on appelle la section de la consolation prophétique de Jérémie, chapitre 29, et les versets subséquents. Et à plusieurs fois, la phrase est répétée comme dans Jérémie 30, 1 et 2. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. La parole qui fut adressée à Jérémie. Ainsi parle le Dieu d'Israël, écrit dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Pendant 4 décennies où il a fait son ministère, décennies parmi les plus difficiles et progressivement de plus en plus désespérantes, Il y a plein de croyants qui regardent, et ceux qui sont un peu plus âgés, qui regardent notre société québécoise, notre monde, et notre société québécoise, et qui disent qu'il y a des choses qui empirent, il y a des choses qu'on n'a jamais pensé qu'on vivrait, Et Jérémie a vécu ça de décennie en décennie, alors qu'il était bombardé d'une cacophonie de voix discordantes qui bombardaient son âme et son esprit. Mais Jérémie, à chaque jour, a recherché, a reçu et est resté dans la parole et les promesses de Dieu. L'apôtre Paul a dit en 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 10, quelque chose de très important. Il a dit, « Il y a une multitude de voix dans ce monde et aucune d'entre elles n'est sans signification. » Tu ne pourras pas marcher, entrer et vivre la dimension du Dieu de l'impossible si tu n'apprends pas à choisir quelle voix tu vas écouter. À choisir quelle parole va nourrir ton âme, quelle voix tu vas nourrir ton âme et ton esprit. L'apôtre Paul dit, il y a une multitude de voix. Et il était prophétique, mais ne pouvait pas imaginer l'époque 2023. Il ne pouvait pas imaginer les médias sociaux. Il ne pouvait pas imaginer toutes ces voix qui nous bombardent. Des voix de colère, des voix de haine, des voix de division, des voix de décadence, des voix d'immoralité, des voix qui nous bombardent de tous les côtés, des voix de rancune, des voix de colère, de tous les côtés. Des voix extérieures et aussi des voix intérieures. Des voix humaines et des voix spirituelles qui viennent bombarder ton âme et ton esprit. C'est pour ça que Hébreux 4:12 nous dit, « Car la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, elle est plus tranchante et puissante que toute autre épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager, à départager, à différencier, à identifier, à discerner l'âme et l'esprit, et elle nous rend capable de discerner. » De porter un verdict, de juger, de discerner, de porter un verdict sur les sentiments et les pensées du cœur. Il y a seulement la part, quel que soit ce que tu traverses, avec toutes les voix qui nous bombardent, de l'extérieur, de l'intérieur, de ta chair, de l'ennemi, du monde autour, des gens, tu dois choisir quelle voix parle à ta vie si tu veux marcher à la lumière du Dieu de l'impossible. Et la parole de Dieu, elle est vivante. Elle est vivante pour nous aider. Il y a seulement sa parole qui peut nous aider à départager. Ça, c'est moi. Ça, c'est mon âme. Ça, c'est mes émotions. This is soulish. Et ça, c'est ce qui est de Dieu pour ma vie, ce qui est de l'Esprit pour ma vie. Accuser Dieu d'être silencieux quand tu n'ouvres pas sa parole, c'est comme te plaindre de ne pas recevoir de messages avec ton téléphone fermé. Hier, j'ai vécu un drame dans ma vie. Samedi, journée d'études, je suis préparé pour ce message aujourd'hui, mais aussi les messages la semaine prochaine. Et le matin, je suis venu au bureau avec mon iPad et que j'avais chargé toute la nuit et mon iPad était vidé, ne chargeait plus. Il y a ma vie dans mon iPad. Tous mes messages sont là-dedans. Il y a ma vie entière là-dedans. C'est un samedi. Je ne veux pas déranger les gars, mais je suis même pas capable d'étudier, préparer. Mais tout ce que j'avais préparé est là-dedans. Alors, j'allais chercher un autre fil. J'avais mon problème de fil. Un autre fil. J'ai essayé 7 fils. Alors, en désespoir, j'appelle notre chef qui m'a sauvé la vie, le chef de notre parc informatique. Puis il m'a dit, je vais envoyer quelqu'un. Et merci à celui qui est venu. Et puis il a dit, testez rapidement. Parce que là, c'est pas le filage, là. c'est pas la connexion, c'est le récepteur, c'est l'iPad qui brise, ça vous en prend un autre. Et alors qu'il disait, c'est pas un problème de connexion, c'est un problème de réception. J'étais assis là et j'ai pas entendu la voix audible de Dieu, mais dans mon esprit, le Seigneur qui disait, c'est pas mal comme ça avec mes enfants. C'est pas qu'il y a un problème que j'ai un message pour eux. Je veux leur parler. Je veux leur donner ma parole. Le problème est dans le récepteur qui est fermé. Le récepteur qui n'est pas ouvert. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Il dit, Seigneur, dans ce que je traverse, je dois choisir quelle voix je veux entendre pour discerner qu'est-ce qui est de mon âme et qu'est-ce qui est de l'esprit. Quelqu'un devrait dire oui. L'âme, c'est les émotions, c'est mon ego, c'est le moi, ma volonté, mes pensées, mes carences, mes défis, mes pulsions, mes traumatismes, mes blessures. Mon éthos, ma personnalité, mon bagage émotionnel, psychologique, familial, relationnel, social, religieux, spirituel. Mon âme, c'est la présence constante, la pression et le poids du passé qui peut venir alourdir notre présent, attaquer notre foi et même nous aveugler à l'avenir que Dieu a préparé pour toi. Ça, c'est l'âme. L'Esprit, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Tu es né de l'Esprit, tu es né de nouveau. C'est la dimension spirituelle de nos vies, la partie de nous qui ne mourra jamais. Le corps va s'éteindre, l'âme va s'éteindre, mais l'Esprit va vivre éternellement avec Dieu. Si tu es un chrétien, une chrétienne aujourd'hui, bonne nouvelle, tu ne mourras jamais. Cette enveloppe va s'éteindre, mais tu t'en vas avec Dieu. Je pensais que plus que 3 personnes diraient « Amen » à ça ce matin. Mm-hmm. L'Esprit, c'est la présence de Dieu. C'est la paix de Dieu, c'est la plénitude de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la vie de Dieu, c'est la voix de Dieu. Elle seule, par sa parole, peut, seulement la parole de Dieu sous l'inspiration de l'Esprit, peut te faire différencier, peut te faire diviser, peut te faire rendre capable de discerner ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas dans ton cœur. Je dirais de cette façon pour prendre la pensée de Jésus. Sa parole seule, vivante et puissante, te permettra de discerner et de retrancher de nos cœurs ce qui ne vient pas de lui. Dans Jean chapitre 15, versets 2 à 4, Jésus dit « Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. » Elle dit « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Est-ce que on a pris plusieurs semaines cette année, comme à chaque année, mais pour vraiment enseigner le plus en profondeur possible la richesse de qui vous êtes en Jésus-Christ. Jésus dit, vous êtes déjà purs à cause du message de l'Évangile. Si tu as reçu le pardon en Jésus-Christ, tu es déjà purifié devant Dieu. Tous les péchés, passés, présents et futurs, ont été imputés à Jésus et toute sa justice t'a été donnée. Si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, tu es pardonné, tu es réconcilié, tu es adopté, tu es aimé, tu es accepté et tu es sauvé. Déjà, vous êtes purs. Dites amen. OK. Déjà, vous êtes purs. Mais demeurez. Ça, c'est ta position en Christ. Mais il faut que tu demeures en moi. Il faut que tu demeures dans cette parole si tu veux être capable de retrancher de ta vie. Autre vignette de réalité. On a un arbre devant chez nous qui a besoin d'être taillé. L'expert est venu. Et moi, je ne connais rien là-dedans. Je suis un gars de Saint-Michel, de béton. Je ne connais rien à rien de tout ça. Mais j'ai juste entendu le monsieur parler et dire, ben oui, parce que vous avez des branches là, qui sont mortes. Et ces branches-là, ce n'est pas juste dangereux pour elles. Des branches mortes empêchent tout le reste de porter du fruit. Il faut que tu enlèves les branches. C'est ce que Jésus dit. C'est seulement par la parole de Dieu que tu vas arriver à discerner qu'est-ce qui est de mon âme, de mes émotions, de moi, qu'est-ce qui est de l'Esprit de Dieu pour moi. C'est seulement par la parole, alors que tu demeures en lui, que tu vas pouvoir retrancher de ta vie ce qui doit être retranché afin ce qui est mort maintenant, à ce qui doit être retranché afin que le fruit de Dieu puisse prendre place dans ta vie. J'ai besoin de la parole de Dieu pour retrancher ce qui doit être retranché et vivre par son Esprit dans le Dieu de l'impossible. Quelqu'un devrait dire oui. C'est pour ça que Job a dit, j'ai considéré les paroles de ta bouche comme plus précieuses, plus nécessaires que ma nourriture. Je n'ai pas abandonné ses commandements. J'ai fait plier, ouf, c'est tellement puissant. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Il accomplira, c'est alors qu'il accomplira non seulement ses desseins, je connais les plans que j'ai formés sur toi, alors il va accomplir ses desseins à mon égard et il va en concevoir bien d'autres encore, infiniment au-delà de tout ce que tu aurais pu imaginer. Question spirituelle absolument déterminante. Dans toutes les saisons, mais particulièrement lorsque le présent et l'avenir semblent incertains, instables, ou que tu es dans le domaine de l'impossible qui semble irrécupérable, irréalisable, carrément impossible. Question, est-ce que je considère sa parole comme ma nourriture à chaque jour? Est-ce que je nourris mon esprit afin de pouvoir discerner? Est-ce que j'ai demeuré dans ses commandements? Est-ce que j'ai abandonné l'honnêteté de cœur? Est-ce que j'ai abandonné ses commandements? C'est la plus grande souffrance. C'est la plus grande souffrance d'un berger. C'est la plus grande souffrance d'un pasteur après, avec quatre décennies de ministère. C'est de voir des gens qui ont tellement connu Dieu, aimer Dieu de tout leur cœur. Aimer Dieu de tout leur cœur. Mais il y a des saisons où ils se sont détachés. On ne demeure plus en lui. J'ai besoin de demeurer en lui jusqu'à mon dernier souffle. Tu as besoin de demeurer en lui et dans sa parole jusqu'à mon dernier souffle. J'ai besoin de... Seigneur, est-ce que par ta grâce, est-ce que je suis prêt à plier à plier ma volonté à ta parole. Et si tu plies ta volonté, même quand c'est dur, quand c'est difficile, si tu plies ta volonté, ton âme à l'esprit, ta volonté à sa parole, le Seigneur t'annonce encore aujourd'hui, il accomplira donc ses desseins à ton égard, il en concevra bien d'autres encore. Quel que soit ce qui a été ébranlé, tu dois te rappeler, te rapprocher. Quel que soit ce que tu entends, tu dois rechercher, recevoir et rester dans sa parole. Il est le Dieu de l'impossible. Ma dernière pensée aujourd'hui, quel que soit ce qui semble s'écrouler autour de toi et t'entoure, tu dois résister et retenir ce qu'il t'a confié. Jérémie est à, au moment où on va lire le texte de Jérémie 32, Jérémie est emprisonné. La ville a été assiégée. Il est entouré d'ennemis, il est cerné de tous les côtés, et ce qui s'apprête à arriver de son époque est ce que les historiens ont appelé la chute de Jérusalem, où finalement Nébuchadnezzar et toutes les armées ennemies sont venues envahir et détruire la ville. Alors, dans ce contexte où tout semble s'écrouler, où Jérémie parle avec Dieu et il rappelle à Dieu quelque chose que Dieu lui a demandé, il dit « Voici les rampes, voici ma situation », verset 24-25. Les rampes d'attaque s'élèvent contre la ville à la menace et la menace entre les mains des Chaldéens qui l'attaquent. Néanmoins, Seigneur éternel, tu m'as dit, achète un champ. Prends des témoins alors que la ville est livrée entre les mains des Chaldéens. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Voici, c'est ça le contexte. Voici, je suis l'Éternel. Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour moi? Il y a trois étapes au chapitre 32 de Jérémie. Le défi prophétique de Jérémie, la description de la prière de Jérémie et la destinée préparée, la délivrance préparée, proclamée et possédée par Jérémie. Alors qu'il y a dévastation partout autour, Jérémie utilise une expression qu'il faut que vous compreniez tout son sens. C'est ce qu'il dit, les rampes d'attaque s'élèvent contre la ville à l'époque. Lorsque les ennemis venaient pour assiéger les villes, comme Jérusalem à l'époque, étaient des villes fortifiées, avec des murs qui les entouraient. Et plutôt que d'essayer, en même temps que de faire la bataille, de d'effriter ou de faire un trou, de réussir à renverser des murs qui avaient parfois des 5 mètres, des 10 mètres d'épaisseur, d'airain fortifié, ce que les ennemis faisaient, c'est qu'ils bâtissaient littéralement une rampe d'attaque. Ils bâtissaient une rampe qui allait pour aller au-dessus du mur pendant qu'ils assoiffaient, pendant qu'ils affamaient et qu'ils attaquaient la ville qui va être prise et qui est isolée. Et Jérémie dit littéralement, et c'est ce qui est arrivé historiquement, Jérémie dit littéralement, l'ennemi est rendu au-dessus du mur. Il n'y a plus de défense. L'ennemi est rendu au-dessus du mur. Et c'est à ce moment-là que Dieu lui lance un défi, que Dieu lui donne un défi prophétique. Dans Jérémie chapitre 32 et au verset 8, « Et Hananiel, le fils de mon oncle, vint auprès de moi selon la parole de l'Éternel dans la cour de la prison. Et il me dit, achète mon champ qui est à Anathoth, dans le pays de Benjamin. » Jérémie est né à Anathoth. C'est là, dans chapitre 1, qu'il a reçu l'appel de Dieu sur sa vie, que Dieu a étendu sa main et l'a appelé à être une voix pour les nations. Le mot Anathoth veut dire réponse aux prières, réponse de Dieu. Et à quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce matin, quand tu traverses le pire, Dieu dit, rappelle-toi, même si le temps a passé, même si en ce moment il y a des choses qui semblent s'écrouler, rappelle-toi celui qui t'a appelé. Rappelle-toi, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. J'ai encore des plans, puis il n'y a rien de trop difficile pour moi. Alors, retourne à Anathoth et achète mon champ, car tu as le droit d'héritage et de rachat. Achète-le. Et j'ai reconnu que c'était la parole de l'Éternel. Verset 12. J'ai remis le contrat d'acquisition à Baruc, le fils de mon oncle, en présence des témoins qui avaient signé le contrat d'acquisition, en présence de tous les Juifs qui se trouvaient dans la cour de la prison. Et j'ai donné devant eux cet ordre à Baruc. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Prends ces écrits, ce contrat d'acquisition, celui qui est acheté, celui qui est ouvert, mets-le dans un vase de terre afin qu'il se conserve longtemps, car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. On achètera encore des maisons, on achètera encore des champs et des vignes vont fleurir encore dans ce pays. Quel défi de Dieu! Est-ce que vous comprenez l'invraisemblance dans la folie apparente humainement, alors que tout s'effondre et que la ville va être dévastée? Dieu dit à Jérémie, achète un terrain, achète ce terrain, achète ce lot, achète, c'est pour toi, c'est ta place à toi. Achète ce champ et parce que sur ce champ, je vais refaire fleurir à nouveau. Je ne suis pas un expert en évaluation, je ne suis pas un expert en immobilier. Mais lorsque c'est la Troisième Guerre mondiale et que tout va être rasé à terre, ça ne semble pas être le meilleur temps d'investir. Est-ce que vous me suivez? Ça semble tellement invraisemblable. Tout s'effondre autour, mais Dieu dit, je suis celui pour qui il n'y a rien qui est trop difficile pour moi. Alors achète le terrain, parce que ce terrain représente que ça va fleurir à nouveau. Il va y avoir de la vie à nouveau. Nebuchadnezzar va passer, les envahisseurs vont passer. Mais moi, je reste et j'ai encore des plans formés pour ta vie. Je vais vous le mettre dans la manière québécoise la plus simple. Lorsque tout semble s'effondrer autour de toi, occupe-toi de ton petit coin. Occupe-toi de ce qui t'appartient en Dieu. Occupe-toi de ce que Dieu t'a donné et laisse faire le reste. Occupe-toi de ta foi. Occupe-toi de ton cœur. Laisse faire ce que les autres disent. Laisse faire ce que les autres disent. Laisse faire ce que l'ennemi dit. Occupe-toi de ton cœur. Occupe-toi de ta famille. Occupe-toi de tes enfants. Occupe-toi de ta foi. Occupe-toi. Alléluia! Sème, achète le terrain. C'est une déclaration qui disait, Dieu n'a pas fini avec nous. Dieu est au-delà de tout ça. Il n'y a rien d'irréversible. Rien n'est trop difficile pour lui. J'achète le terrain. Je sème ici. Je vais continuer à aimer. Je vais continuer à pardonner. Je vais continuer à servir. Je vais continuer à donner. Je vais continuer à croire. Je vais continuer parce que ce terrain m'appartient. Il m'appartient pour l'acheter et il m'appartient en rédemption. L'avez-vous saisi? Droit d'achat et de rédemption. Ce terrain-là t'appartenait, Jérémie, par héritage. Et en tant qu'enfant de Dieu, des choses qui t'appartiennent comme héritage. Mais l'ennemi a pu voler des choses qui t'appartenaient comme héritage. Mais c'est pas seulement ceux qui... je sais que c'était mon héritage, mais je l'ai perdu. Je veux dire ce matin qu'il te donne le droit de rédemption, de racheter, d'aller chercher en Jésus tout ce que l'ennemi avait volé. Quelqu'un devrait dire oui. C'est ça, Jérémie, c'est le défi prophétique de Jérémie. Jérémie dit, je vais même vous dire comment j'ai prié. Voici comment j'ai prié, voici la description de ma prière. Souvent, on pense, Jérémie, les lamentations de Jérémie. Non, Jérémie, voici comment il a prié. Dieu m'a lancé le défi, j'ai dit, c'est à moi, ça m'appartient, ça c'est ma destinée. Il est arrivé tellement de choses, tout semble s'effondrer. L'ennemi est au-dessus du mur, mais moi j'achète un terrain. Parce que Dieu n'a pas fini. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et voici comment j'ai prié. Ça devient notre prière, Jérémie 32, 16 à 20. Voici comment j'ai prié, l'Éternel. Ô Seigneur, dis, Éternel, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et ton bras étendu. Rien n'est trop difficile pour toi. Tu es le Dieu grand puissant. Tu es grand en conseil, puissant en action. Tu fais des miracles et des prodiges. Tu t'es fait un nom comme il est aujourd'hui. Dieu s'est fait un nom à faire des miracles. Dieu s'est fait un nom à bénir des gens qui semblent entourés de difficultés, mais qui se tiennent pour lui et qui cultivent leur champ devant Dieu. Dieu s'est fait un nom à faire des prodiges et à manifester qu'il est le Dieu de l'impossible. Pasteur Claude, j'ai invité les musiciens à s'approcher. Pasteur Claude, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Achète un champ aujourd'hui, vas-tu nous faire un projet immobilier la semaine prochaine? Occupe-toi de ce qui t'appartient. Concentre-toi sur ce que Dieu t'a confié. Aime, pardonne, reste fidèle. Investis-toi en Dieu. Ne relâche pas ton standard. Quand tout est secoué autour, l'ennemi semble au-dessus du mur. Sème la paix au milieu de la critique, des accusations. Refuse de te laisser empoisonner. Cultive ton champ. Cultive ton esprit pour discerner ce qui est seulement de l'âme. Moi, je veux ce qui est de l'esprit de Dieu. Discerner, porter jugement droit sur ce qui vraiment doit être sur mon cœur. Et la promesse de Dieu pour celui qui protégera son champ, qui se donnera, qui envers et contre tous, lorsque personne ne comprend, dit, moi je me tiens pour Dieu. Moi je vais me tenir pour Dieu. Et Dieu dit, voici, chapitre 20, 33, c'est le chapitre suivant. Je lui donnerai guérison et santé. Je les guérirai. Je leur ouvrirai une source abondante de paix. Je les rétablirai, je les pardonnerai de toutes les fautes qu'ils ont commises contre moi, même quand ils se sont révoltés ou se sont endurcis contre moi. Quand ceux qui les entourent apprendront tout le bien que je leur ferai, ils seront étonnés et émus de leur bonheur. On entendra encore dans ce lieu que vous dites désert. Tu penses que c'est désert? Tu penses que ta situation est désert? Tu penses que... On entendra que ton cœur est désert. On entendra encore dans ce lieu que vous dites désert et dévasté, les cris de réjouissance et la voix de ceux qui disent « Louez l'Éternel, car il est bon, sa miséricorde durera toujours. » On entendra encore et encore la voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison de Dieu. Nous avons tous besoin de guérison qui nous semble impossible. Nous avons tous besoin de pardon. De pardon pour nos rébellions envers Dieu, pour nos endurcissements envers lui, pour nos choix dans certaines saisons d'ignorer sa voix qui nous appelait, d'écouter les mauvaises voix. Nous avons tous besoin de son pardon. Et nous sommes tous appelés, parce qu'il est le Dieu de l'impossible, à devenir des témoignages de guérison du bien que le Dieu de l'impossible a fait dans nos vies quand nous avons cultivé un champ avec lui au milieu de nos tempêtes. J'ai été tellement bouleversé par les mots, ils seront étonnés et émus devant tout le bien que Dieu vous a fait. Puis quand j'ai lu ça, j'ai pensé à l'été dernier. L'été dernier, j'ai un cousin, j'ai demandé sa permission de témoigner ceci. J'ai un cousin qui est très éloigné. On s'est vu, je pense, une fois en 40 ans à une funéraille où on se connaît. On se parle pas depuis 40 ans, mais on a grandi ensemble dans des situations très difficiles. Et lui savait quelque part que Claude, mon cousin, est devenu un pasteur, mais jamais mis pied quoi que ce soit de chrétien ou d'évangélique. Et son épouse, la maman de son épouse est venue d'un pays africain en visite à Montréal. Et lorsqu'elle est arrivée, elle a dit à mon cousin, « Ah! » Moi, je suis tellement heureux d'être au Canada, je suis au Québec. On s'en va tous à Nouvelle Vie dimanche. C'est Nouvelle Vie, moi je suis Nouvelle Vie, je suis Nouvelle Vie. Je veux aller voir Pasteur Claude. Et lui dit, Pasteur Claude, c'est mon cousin. Elle dit, non, toi, menteur, c'est pas possible, tu peux pas te relier à toi. Oui, oui. Fait que là, et lorsque la belle-mère arrive en ville, elle décide, on s'en va à l'église. Tout le monde s'en va à l'église. Alors lui, il sait pas trop quoi, il check sur Waze, et puis, OK, Nouvelle Vie, c'est bien Claude Wood, c'est ça. Oh boy, c'est 40 ans plus tard, mais c'est sa face. Ça s'est pas amélioré, mais bon, voilà. Et ils arrivent ici, et de tous les hasards et coïncidences du monde, c'est la première fois que ça arrivait, parce que c'est la première fois que j'ai eu 60 ans, c'était le dimanche où l'Église prenait un moment de célébrer mon 60e. Pas tant si excitant que ça, célébrer mon 60e. Et moi, dans mon message, moi, je ne sais pas que mon cousin est là, je ne sais même pas, mais je raconte mon témoignage de ce que Dieu a fait. Et à la fin de la réunion, le pasteur Jocelyn m'amène et il me dit, est-ce que tu me reconnais? Juste les yeux. Je dis, non, c'est toi ça. Il avait les yeux pleins d'eau. Il m'a écrit une longue lettre par la suite. Il m'a dit, je sais d'où on vient. Puis j'aurais jamais pu imaginer qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie. J'ai pensé au terme, et moi aussi à chaque jour, j'ai pensé à ces mots, ils seront étonnés et émus de tout le bien que Dieu a fait à celui ou celle qui au milieu de son cœur garde son champ au milieu des tempêtes. Le champ refleurira à nouveau, portera un fruit à nouveau. On rira à nouveau, on priera à nouveau. Tu te réjouiras à nouveau, tu célébreras à nouveau, tu seras heureux à nouveau. Dans cette année 2023, j'ai quelqu'un très proche de moi dans ma famille qui n'est pas un de mes enfants ou de mes petits-enfants, mais très proche, qui est en prison pour cinq ans et à ce moment, il est au Supermax. Et lorsque je suis allé le visiter, toutes sortes d'examens qu'il faut que tu fasses avant, toutes sortes de vérifications, c'est vraiment lourd, c'est barbelé partout, bien sûr, les gardes avec les armes et tout. Puis tu passes une porte qui se ferme derrière toi, puis une autre, puis finalement, on arrive, puis juste la vitre. Il lui arrive, et on a à peine 30 minutes ensemble, puis on parle ensemble, il prend courage, lâche pas, etc. Et lorsque j'ai sorti de là, dans le stationnement de la prison, entouré de barbelés, là, et la semaine où je suis allé, il y avait un détenu où il était. C'est tellement violent, c'est tellement barbare, un détenu qui avait été ébouillanté et assassiné. Et lorsque j'ai sorti de là, je me suis assis dans ma voiture, j'ai fermé la porte, j'ai mis mon visage sur le volant, je me suis mis à pleurer, puis j'ai dit, Seigneur, si ce n'était pas de toi, c'est là que je serais. C'est là que j'étais, c'est là que je serais. Mais il n'y a pas de limite. Rien n'est impossible. Rien n'est trop difficile, quel que soit où tu es en ce moment, quelle que soit la vitre, la cellule dans laquelle tu penses te trouver, il n'y a pas de limite au bien que le Dieu de l'impossible peut faire dans ta vie. Et tu vas étonner, et tu vas émouvoir, et tu vas témoigner de tout le bien que Dieu peut faire dans une vie. Quelqu'un devrait donner une ovation à celui qui le mérite. Nouvelle vie, il y a des moments où il faut se lever et il faut ovationner. Des moments où il faut se lever et ovationner. Toi qui es en ligne, il y a des moments où il faut se lever et pousser un cri de célébration, un cri de foi, un cri de combat.